tous les programmes de Cause Commune, causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune.
Nous aurons évidemment la planification écologique qui va structurer l'agenda de rentrée. Nous aurons la question de l'immigration qui va structurer nos travaux de rentrée. Et là aussi, nous avons continué d'avancer à marche forcée.
Causecommune.fm.
Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Migrer de Windows vers un système libre sur le poste de travail, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique de Laurent et Laurette Costi, il faut interdire les pichenettes, et aussi la chronique de Luc, souveraineté numérique, une urgence. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission, c'est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. Nous sommes mardi 9 septembre 2025, c'est la première émission de la 9e saison de Libre à vous. Nous espérons que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter de ce temps de repos, de loisirs, de ressourcement et de beaux moments en famille ou avec des proches. C'est avec joie que nous vous retrouvons après cette pause estivale et nous sommes enchantés de vous accueillir si vous découvrez l'émission aujourd'hui. Nous diffusons en direct sur Radio Cause Commune, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et nous saluons également les personnes qui nous écoutent sur la web radio, Radio Cigaloun, Radio Libre ou Radio Libre en Périgueux, excusez-moi, et enfin Radio Quetch, qui est la dernière radio à nous rediffuser. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Magali Garnero dit Bouquinette, la présidente de l'April, elle-même. Bonjour Mag.
Salut à vous.
Alors, avant de commencer l'émission, nous souhaiterions la dédier à Louis IX, cofondateur d'Exodus Privacy, association française qui développe une plateforme d'analyse des applications Android qui liste les trackers qui y sont présents. Nous avions reçu Louis IX en octobre 2024 pour parler des enjeux de la vie privée sur Internet et sur les appareils connectés. C'était l'émission 220 à écouter sur libreavoue.org/220. Je vais lire le message d'Exodus Privacy annonçant la semaine dernière le décès de Louis IX. C'est avec beaucoup de peine que nous avons appris mardi soir le départ de Louis IX, cofondateur d'Exodus Privacy, président actuel de l'association et surtout ami. Activiste vindicatif, il savait en découdre avec les administrations et nous a aidé à en découdre avec les pisteurs. Que ce soit au clavier avec ses bons mots ou au pétrin avec son pain, il avait à cœur de nourrir les personnes qu'il rencontrait. Ses râleries, autant que ses blagues, nous manqueront. L'équipe de Libre à vous et de la radio présente leur condoléances à l'équipe d'Exodus Privacy et aux proches de Louis IX.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+ en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et services respectueux des utilisatrices et utilisateurs pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. C'est la chronique à cœur vaillant, la voix est libre, de Laurent Costi, administrateur de l'April, et de sa fille Laurette Costi. Je précise tout de suite que la chronique a en fait été enregistrée en fin de saison dernière et il était prévu de la diffuser à ce moment-là en juin 2025. Cela n'a pas été possible, on la diffuse donc aujourd'hui. Le thème de la chronique, il faut interdire les pichenettes.
Mais dis-moi, c'est la fin de saison.
Dis-moi, ça fait 30 mois et ça fait aussi 2 ans et demi si c'est ce que tu cherches. Et à quoi donc dois-je m'attendre avec cette annonce?
Fin de saison égale?
Des promotions? Le début d'une autre?
Non, il est grand temps de passer en revue et de résumer en chanson tout ce que nous avons abordé dans notre chronique « À cœur vaillant la voix est libre » cette saison. Perso, je trouve mon idée excellente. D'abord parce que la proximité avec la fête de la musique ancre, tel le retrait de la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy, cette chronique dans son époque.
Et par ailleurs et surtout, ça te fait beaucoup moins de choses à préparer, hein? Je vois bien ce qui motive ce résumé en chanson. Bon, t'inquiète, y a rien qui va pas. Allons-y.
Tac, je compte jusqu'à 42 et tu commences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
On peut
peut-être
abréger, non ?
Non. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42.
Au début, je voulais demander à ChatGPT des idées de chansons. Mais je me suis dit qu'au-delà de la blague et de filer mes données, j'allais quand même pas polluer. Alors de quoi est-ce que je vais bien pouvoir parler? Et on n'est pas prêt d'arrêter. Alors, continue d'avancer. J'aurais encore appris des tonnes de trucs et des choses que je vais sûrement oublier. La technique du loup concentré recroquevillé. Putain, elle est pas facile à placer celle-là quand même. Quand dans ma classe, on me demande des solutions et des outils, je leur parle PirateBox et Firefox et rétro-ingénierie. Et quand on pense que Microsoft veut nous faire payer pour des licences qu'on n'a pas demandé, on se dit qu'il serait peut-être temps de bifurquer et de quitter ce chemin tracé. Alors, continue d'avancer. C'est pas parce que t'as rien à cacher qu'on peut fouiller dans tes données privées. C'est quand même pas compliqué. Alors, continue d'avancer. faudra pas abandonner.
Waouh, respect, je suis totalement over fier de toi. Si j'avais su que ça porterait autant de fruits, je t'aurais pas laissé te payer tes cours de guitare, je les aurais payés moi-même. Mais bref, encore bravo. Et en plus, tu as fait aussi le résumé de l'épisode à venir. C'est ce qu'on appelle une synthèse prédictive.
Yep. Donc effectivement, attention les gens, en novembre de cette année, le 14 octobre 2025 pour être précis, Microsoft va arrêter le support de Windows 10. Vous pouvez voir l'article de nos amis de l'association Halte à l'obsolescence programmée. Arrêtez de vous faire empapaouter et prenez en main votre indépendance.
Ce n'est pas qu'un unique problème de liberté informatique, même si cet argument pourrait suffire.
Ça devient un vrai enjeu de société pour ses conséquences environnementales. Si on en croit Green IT, donc vous pouvez aussi retrouver la référence sur la page de la chronique lors de la publication du podcast, 240 millions de PC ne pourront pas être reconditionnés faute de pouvoir y installer Windows 11.
Moi, dès qu'on dépasse les centaines, je suis un peu perdu. T'as pas une image pour me faire une idée ?
Ouais, ok. On va faire grossier et on va poser nos hypothèses de départ. Comme ça, les gens pourront adapter. Prenons une épaisseur moyenne de 2 cm pour un ordinateur portable fermé. 2 x 240, ça nous y fait donc, si on les empile, une tour de 480 millions de centimètres de hauteur.
Attends, je retiens 2, je secoue, je multiplie par pi, fois 1, divisé par pi, et je mets ça dans un beau tableau à colonnes qui met en évidence les unités comme on m'a appris à l'école primaire. Ça ferait pas 4800 km ?
C'est ça. Quand on se souvient que le Mont Blanc est évalué à une hauteur d'environ 4800 mètres, ça nous fait donc une hauteur d'ordinateur équivalente à 1000 Mont Blancs entassés les uns sur les autres. Ou aussi, si vous préférez les analogies spatiales, 10 fois la distance à la Station Spatiale Internationale.
Fichtre bisque diantre. Ouais, il paraît qu'il faut plus dire sapristi, ça fait trop vieille école.
Oui, tu peux aussi remplacer fichtre bisque diantre directement par en vrai. Tu seras vraiment sur le haut de la vague.
En vrai, donc, c'est super impressionnant. Ça veut dire qu'à partir du 14 octobre de cette année, Microsoft nous oblige à venir déposer notre ordinateur sur une pile près du Mont Blanc. A priori, ils ne remboursent pas le déplacement jusqu'à Annecy. Et d'ici quelques mois, quand tous les ordinateurs seront empilés, Microsoft donnera une pichenette sur la colonne pour qu'elle s'écroule.
C'est ça, c'est absolument totalement désagréable. C'est comme quand t'es enfant et que tu fais une gigantesque tour de Kaplan et que quelqu'un vient donner un coup de pied dans la tour. D'autres décident pour toi. Mais en vrai, on n'a pas le droit de faire ça.
Quand tu étais petite, la tour de Kaplan, c'est tout ton univers. Mais quand tu grandis et que tu comprends que Microsoft accélère la fin de notre univers commun, on peut être rudement agacé. D'autant que parallèlement à ça, Microsoft affiche fièrement sur sa page Sustainability, durabilité en français, accélérer votre progression avec de puissantes solutions de développement durable. Ça pourrait être la nouvelle définition du cynisme. Ma mère dirait même foutage de gueule. Bref, si j'étais vous, je suivrais ce conseil plein de bon sens.
Au prochain changement de direction, prenez l'autoroute 2025 en direction de GNU Linux. Bon, bien sûr, les ordinateurs qui ne supporteront pas la montée de version ne vont pas devenir inutilisables dès le 15 octobre. Mais le fait qu'une entreprise dicte mondialement ce que doit être la consommation accélérée d'ordinateurs est tout simplement absurde et aberrant.
Donc, il faut bifurquer. D'autant que désormais, les solutions alternatives existent et sont éprouvées depuis longtemps. Elles fonctionnent même à grande échelle.
Ouais, l'exemple ne date pas d'hier. La gendarmerie française utilise la distribution GNU Linux Ubuntu pour les postes de travail. Vous pouvez notamment écouter l'émission 34 de Libre à vous du 3 septembre 2019 si vous ne croyez pas.
Et récemment encore, devant la prise de conscience des enjeux de souveraineté, ou autrement dit de maîtrise de son système d'information, la dernière revue de presse de l'April nous apprenait à travers un article de l'usine digitale que Copenhague et Aarhus, les deux plus grosses villes du Danemark, ont commencé à se désengager de Microsoft pour une partie de leur système informatique.
Donc c'est possible. Juste, il faut mettre en évidence les enjeux pour toutes ces personnes qui décident. Et surtout, quand une transition est décidée, les personnes impliquées doivent savoir pourquoi elles doivent le faire. C'est un élément important pour que ça réussisse.
Tout comme l'accompagnement qui est indispensable et qui doit être pensé en amont.
Bref, c'est possible, alors faites-le enfin. Et puis vous verrez à terme, c'est libératoire.
Au prochain changement de direction, prenez l'autoroute 2025 en direction de GNU Linux.
Nous sommes de retour en direct, c'était la chronique à cœur vaillant, la voix est libre de Laurent Costi, administrateur de l'April, et de sa fille Laurette Costi. On va faire une pause musicale. « Avant la pause musicale, message aux personnes qui nous écoutent en FM ou en DAB+, on va expérimenter quelque chose. N'hésitez pas à nous envoyer par SMS un avis ou commentaire sur l'émission en cours, par exemple sur la chronique. Ne serait-ce qu'un smiley, un visage positif par exemple, ou fâché si vous n'avez pas apprécié, un cœur ou autre. Le numéro 06 60 68 89 31. Je répète, 06 60 68 89 31. Après la pause musicale, nous allons continuer de parler de Windows vers un système libre sur le poste de travail suite à cette belle introduction. Et en attendant, nous allons écouter Fusidine par Emma. On se retrouve dans 2 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Venons d'écouter Fusidine par Emma, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre par notre sujet principal, excellemment introduit par la chronique de la famille Costi juste avant, qui va donc porter sur migrer de Windows vers un système libre sur le poste de travail, avec nos invités Isabelle Carrère de l'association Antanac, que vous avez l'habitude d'entendre sur Cause Commune, Julien Négros, responsable technique de l'administration système chez Enerco. Je vais laisser se présenter, mais juste avant, si vous souhaitez participer à notre conversation, vous pouvez venir sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous. Et je précise tout de suite que toutes les références dont on parlera dans l'émission, liens et autres, seront sur la page consacrée à l'émission du jour, donc sur libreavoue.org/253, ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors on va commencer par la question traditionnelle de présentation personnelle. On va commencer par Isabelle Carrère.
Oui, bonjour. Alors donc je vais présenter Antanac, parce que moi on s'en fiche.
Tu présentes qui tu veux.
C'est Antanac que je vais présenter, que j'ai fondé. Donc comme ça, voilà, je suis présentée comme étant juste
la fondatrice et présidente,
la co-présidente. Maintenant, on a changé de gouvernance, okay. Mais en tout cas fondatrice, oui, tout à fait. Donc Antanac, c'est une association loi 1901 sans but lucratif qui a fêté ses 10 ans en février de cette année et qui a pour enjeu, objectif, ambition à la fois de reconditionner des ordinateurs. qui nous sont donnés par des entreprises, mais aussi par des particuliers, parfois. Installer dessus des systèmes libres, donc ça tombe bien, on va pouvoir parler de ce sujet-là, parce que généralement, les ordinateurs qu'on nous donne sont sous Windows, et non pas déjà sur du libre, quoique ça arrive parfois. Et ensuite, on les donne aux adhérents-adhérentes. Ça, c'est le plus gros de l'activité. Le reste, c'est l'accompagnement, les ateliers de sensibilisation, les formations et les permanences d'écrivains numériques publics qui permettent de soit soutenir des gens dans les démarches qu'ils n'arrivent pas à faire seuls, soit de les aider, les accompagner petit à petit à prendre en charge tout ou partie, bref, ce qu'ils veulent faire, ce que toutes les personnes veulent faire avec le numérique, en essayant d'être le moins dans les injonctions, parce que les gens en ont assez quand même des injonctions dans leur vie en général. Donc du coup, c'est plutôt, on y va doucement, au rythme de chaque personne, avec ce qu'il et elle connaissent à faire, apprécient, etc. Puis c'est l'occasion, évidemment, on y reviendra pendant cette l'heure qui vient, de présenter, d'expliquer, de parler de quoi il est question avec les logiciels libres.
D'accord. Avant de passer la parole à Julien, je vais rappeler que vous êtes nos voisines au 18 rue Bernard Dumais, Paris 18e, le studio étant lui au 22.
Voilà, voilà. Près de la porte de Saint-Ouen.
Exactement, à 50 mètres de la porte de Saint-Ouen.
Tout à fait.
Julien, toi tu es... Bah, je te laisse te présenter plutôt, vas-y.
Je vais faire vite sur moi, peut-être juste un petit mot pour rappeler qu'elle existe. Moi, je suis passé par la formation Colibre il y a une quinzaine d'années, et après j'ai mis un pied dans l'administration système dans une structure assez classique, et j'ai rejoint Anercop notamment parce qu'il y avait une vraie volonté d'utiliser des logiciels libres le plus possible, et notamment au niveau du poste de travail, ce qui est quand même assez rare et ce qui m'intéressait beaucoup. Donc Enercop, c'est un réseau de coopératives, un fournisseur d'électricité d'origine renouvelable. Donc c'est 11 coopératives, on est 13, il me semble, si tu dis pas de bêtises, j'ai peur de dire une bêtise. On a fêté nos 20 ans, cette année, on fête nos 20 ans cette année. D'ailleurs, c'est la semaine du 22 septembre, donc c'est tout proche. On commence par l'ongle de COP mardi. Si les personnes qui ne sont pas déjà sociétaires veulent venir voir un peu comment c'est, du coup, il y a mardi l'ongle de COP et jeudi soir une soirée à la Bellevilloise, si vous voulez faire la fête avec nous.
D'accord, tout ça à Paris.
Oui.
Donc Antanac, c'est 10 ans, Enercop, c'est 20 ans, Magali qui aurait le micro dirait « Et nous, l'an prochain, l'April, c'est nos 30 ans !» Voilà. Alors, je suis ravi de vous avoir tous les deux, et comme tu l'as dit, Julien, près de 250 postes de travail sous un système libre, ça m'a intéressé évidemment en termes de retour d'expérience. Alors d'abord, on va commencer par introduire le sujet, alors même si Laurent et Laurette Costier en ont un petit peu parlé tout à l'heure en expliquant ce qui allait se passer le 14 octobre 2025, si on a choisi ce sujet de rentrée, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un événement qui se passe, alors qui rend chafouin pas mal de gens, mais qui est aussi peut-être une opportunité justement pour le logiciel libre. C'est la fin des mises à jour de sécurité gratuites pour Windows 10. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quel va être l'impact de cette fin de mise à jour de sécurité gratuite? Est-ce que qui veut commencer? Isabelle, visiblement.
Moi, je voulais juste dire, après, je te laisse parler, Julien, mais moi, je voulais dire que c'est une géniale opportunité. Mmh. Il faut remercier Microsoft de l'ampleur de cette annonce, parce que ça va permettre de, comme on le fait aujourd'hui, d'expliquer plus et ampleur et encore, les bienfaits des logiciels libres, des systèmes d'exploitation libres, qui sont un bien commun, versus des systèmes et des organisations qui sont privatrices. Mais vas-y, je te laisse raconter. Toi.
Ah bah non, mais t'as tout dit. Hein. et puis nous, personnellement, à Enercop, on est déjà donc sur un système libre pour la plupart des ordinateurs, mais pas tous. Et le peu qui sont encore sur Windows vont le rester a priori. Mais effectivement, pour le grand public, c'est l'occasion, et que ça l'a été dans le passé aussi, de migrer.
Ça devrait être l'occasion. Pardon. Ça devrait être l'occasion pas que pour les particuliers, hein. Ça peut être l'occasion également pour, j'allais dire, les entreprises qui ne le sont pas encore, les collectifs, les associations, mais aussi les services publics. Mmh. Dans la chronique, elle en parlait, hein, de la question de la gendarmerie qui a fait le pas, et nous, dans une dernière émission, on parlait de la police qui, elle, ne l'a pas fait et qui va jeter quelques 30 000 ordinateurs.
Voilà, tout à fait. Je précise que sur la partie collectivité, on a des émissions consacrées aux collectivités retour de l'expérience, donc c'est l'un des sujets qui sera évoqué, parce que notamment il y a certaines grandes villes qui ont lancé un projet de migration vers le logiciel libre sur le poste de travail. Ça prend du temps, et tout à l'heure Julien expliquera. Peut-être juste pour revenir sur ce qui se passe donc en octobre. Ça veut dire que concrètement, donc, en fait, Microsoft force les gens à passer à Windows 11, qu'un certain nombre d'ordinateurs ne sont pas compatibles pour des raisons de performance ou autre, ou de matériel par rapport à Windows 11. Et donc, effectivement, ça pose des questions d'obsolescence logicielle. Alors, tout à l'heure, dans la chronique précédente, ça a été estimé à 240 millions d'ordinateurs qui deviendraient obsolètes pour Windows, mais qui ne le seront pas obsolètes pour un système libre. D'où le choix de cette émission aujourd'hui et de cette opportunité dont on parle.
Voilà. Ce qu'il faut essayer de bien entrevoir. Alors oui, il y a les questions de nombre et voilà, et on peut se réjouir de ça pour effectivement avancer encore plus sur la promotion que nous faisons tous toutes des logiciels libres. La question, c'est que sans non plus faire une terreur auprès de tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut pas leur dire attention, donc demain matin ton ordinateur ne fonctionnera plus, il ne s'allumera même pas. Non, c'est pas ça. Mais en fait, il s'était passé des choses un peu similaires hein, avec l'arrivée de la Windows 10. C'est-à-dire que vous vous souvenez de l'histoire. Donc il y a eu une version 7, une version 8, il y a eu un trou parce que la 9 ils l'ont loupé, ils ont pas fait de 9 pour finalement nous balancer la 10, d'accord? Et la 10 a déjà été, rappelez-vous à l'époque, je sais plus quelle date c'était, mais enfin, rappelons-nous quand même que la 10 a déjà été un problème pour énormément de monde. Et là, on passe à une tranche de problèmes encore plus forte puisque quand ils ont mis la 10, ils continuaient à faire la maintenance chez Microsoft de sécurité et des applications qui sont dedans, enfin toutes les fonctionnalités qui sont dedans sur la 7 et la 8. Là, ce qu'il dit, c'est « Oh ben non, en fait, si tu viens pas sur la 11, comme on a vu que tu t'étais débrouillé déjà quand on était passé à la 10, là, ce qu'on va dire, c'est « Ben non, avec la 10, non, tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus être en fonctionnement sécuritaire. » Ça veut pas dire tu peux plus rien faire. Ça veut dire, s'il y a une faille dans un système, pédon, ça sera pour toi. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui veut essayer de passer puis de hacker des choses, ah ben nous on te protège plus. C'est quand même énorme comme affaire, non?
Tu as bien raison de préciser, oui.
C'est important de préciser que effectivement c'est un choix arbitraire de leur part parce que techniquement il y a beaucoup de ces ordinateurs qui pourraient tourner sur Windows 11 mais ils choisissent un peu par facilité quelque part ce qu'on peut comprendre hein, techniquement de se dire que non il va y avoir trop de problèmes parce que soi-disant ils sont pas assez puissants mais et c'est aussi pour ça qu'on peut les passer facilement sur un système GNU Linux il y a aucune raison qu'ils ne fonctionnent pas encore des années quoi.
Tout à fait. Alors, tu viens de prononcer le mot GNU Linux. Tout à l'heure, Laurette Costier a aussi en parlé. Dans l'informatique, les personnes connaissent bien Windows, fournisseur, Apple. Mais le système dans le monde du logiciel, c'est un petit peu différent. Donc, avant d'aborder la migration en pratique, hein, les bonnes pratiques, les choses à voir, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est une distribution logicielle libre de façon succincte? Qu'est-ce qui la différencie par rapport à l'environnement privateur? Alors,
Il y a plein de choses qui tu veux commencer?
Oh non, je t'en prie.
Non.
Mais vas-y, Isabelle.
Il y a plein de choses qui différencient. La première chose, elle est pour moi et pour nous à Antanac, elle est d'abord le fait que c'est pas pour rien qu'on parle de liberté, parce que justement il y a beaucoup. Il y a une pluralité. On le verra, une pluralité d'écrans, de configurations, de choix, de communautés. Et c'est la promotion également de la décentralisation. C'est-à-dire, c'est pas, il y a une seule tête, je veux voir une seule façon de faire, comme le fait Apple ou comme le fait Microsoft, et tout le monde doit être exactement de la même manière, et si t'es pas là-dedans, t'es pas bon, ça va pas. Non. Là, il y a une ouverture, et donc une ouverture d'esprit aussi, une liberté de faire, de montrer que des choses peuvent être différentes, et pour autant, on continue à se parler, à communiquer, et il n'y a pas de... Voilà. Ça, c'est une chose qui, pour nous, est vraiment très, très importante et qu'on manie au quotidien, puisque sur les ordinateurs que nous reconditionnons, parfois, on va mettre du Debian, parfois du Xubuntu, parfois du Triskel, parfois du... Bref, je ne vais pas toutes les citer, MX Linux, bref. Tout cela, c'est des noms de distribution. Ça veut dire que derrière, ce sont des communautés de personnes, hommes et femmes, ingénieurs, qui développent, mettent en place, suivent, maintenance, améliorent, etc. Un ensemble de fonctionnalités dont on a besoin. Le tout avec quand même des choses qu'on retrouve de l'une à l'autre. Moi, je sais que j'aime à dire dans les formations qu'on fait en Tanac que du moment que tu reconnais la petite icône de LibreOffice Writer, du moment que tu reconnais la petite icône de Firefox, t'es pas perdu. T'es pas perdu, tu vas la retrouver quel que soit le bureau que tu vas avoir. Bref, quand on va parler après pause de travail, je pense qu'on peut s'ouvrir, et je trouve que c'est génial que les gens acceptent par exemple d'avoir deux bureaux différents ou deux distributions différentes et shiftent l'une à l'autre pour essayer des choses. Bascule, c'est l'ouverture des...
Bascule.
Bascule, pardon. Oui, shift, c'est pas français.
C'est une touche du clavier, donc...
Et donc bascule de l'une à l'autre et s'autorise à ne pas suivre simplement une seule voie. Moi, d'accord, c'est ça que j'apprécie et que je pense qu'il faut qu'on arrive à comment dire, il faut calmer la peur de tout le monde avec ça. C'est-à-dire, c'est pratique, j'ai l'habitude, je sais faire. C'est au contraire, waouh, je m'ouvre et au lieu de manger toujours des carottes, je peux manger aussi des endives et des betteraves.
D'accord. Donc, Isabelle a bien posé le contexte. Elle a employé le terme distribution GNU Linux, distribution libre. Est-ce que peut-être tu veux préciser ce que c'est?
Oui, Julien. Oui, alors c'est quand on parle de GNU Linux, c'est que on a donc un système qui se base, enfin, sur lequel on rajoute des logiciels par-dessus le noyau qui fait un peu la communication avec entre le matériel et le logiciel. Donc le noyau Linux, qui est aussi utilisé dans Android d'ailleurs, mais là on parlera pas de distribution GNU Linux. Donc en fait une distribution c'est un ensemble de logiciels avec Linux qui sont souvent la plupart du temps sous licence libre mais pas forcément et qui est soutenu par une communauté ou une entreprise ou les deux c'est souvent les deux qui maintient cette distribution pour qu'elle soit utilisable et qui propose une mise à jour qui permet qu'elle soit fonctionnelle.
Donc, pour résumer, en fait, ce qui va différencier les différentes distributions logiciels libres, c'est la façon souvent de l'installer, de mettre à jour. Mais finalement, les gens qui découvrent le monde du logiciel libre et qui nous écoutent doivent se dire que, au in fine, on va retrouver les mêmes logiciels libres dont on va parler tout à l'heure, LibreOffice, Firefox, The Gimp, Scribus pour la mise en page, et que derrière, il peut y avoir effectivement différentes communautés. Alors, plus ou moins active, et peut-être que je vous poserai la question tout à l'heure, savoir quel rôle ça a par rapport justement au choix de la distribution, comment ça se passe, et que pour les entreprises, on anticipe un petit peu, il y a des entreprises qui font du support dédié à des distributions logicielles libres. C'est-à-dire qu'une entreprise qui migre vers du logiciel libre n'a pas forcément à gérer tout en interne. C'est ça, Julien?
Tout à fait.
D'accord, ok. Donc, on a posé le cadre. Donc on se dit, les gens se disent, c'est l'occasion Windows 10 de peut-être envisager de migrer vers du logiciel libre. Donc là, on va attaquer le gros de l'émission. Donc, comment faire en pratique? Et j'aimerais vous faire réagir sur la fin de la chronique des Costi, de la famille Costi, où Laurette et Laurent expliquaient que deux points importants: informer les personnes de pourquoi il y a cette migration. Alors peut-être que j'en parlerai plus pour toi, Laurent, parce que sur la partie grand public, on a un peu compris, mais sur la partie entreprise. Et deux, anticiper l'accompagnement. Donc le mot clé, accompagnement. Alors déjà, au niveau par exemple Enercop, donc ça fait plusieurs années que vous avez migré un certain nombre de postes de travail, une bonne partie en tout cas 250 vers le logiciel libre. Ouais. Quel a été l'argument, quelles a été les raisons qui ont été mises en avant pour expliquer aux personnes d'Enercop qu'il y aurait cette migration?
Alors, je suis un peu obligé de contourner la question parce que la migration, je ne l'ai pas connue personnellement. Elle a eu lieu il y a longtemps. Je crois que c'était en 2014. Donc, à ce moment-là, ça a peut-être été fait différemment que ce qu'on fait maintenant. Parce que du coup, nous, les personnes arrivent avec un poste qui est déjà sous Linux. Mais c'est un petit peu pareil. Finalement, je pense que c'est les mêmes interrogations. Nous, ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on... On explique aux personnes la philosophie du logiciel libre, pourquoi on a choisi d'utiliser en majorité du logiciel libre, même si beaucoup de personnes utilisent du logiciel libre parfois sans le savoir. Donc on rappelle aussi qu'il y a des choses qui sont familières pour eux et elles et eux. Et on essaye donc de les accompagner, notamment quand ils arrivent, en leur montrant leur poste de travail, on leur fait une démonstration de l'environnement de bureau. En l'occurrence, là, c'est GNOME. Et on leur montre que c'est finalement assez facile à utiliser, instinctif, avec aussi un petit peu les modifications qu'on a apportées. Alors c'est des modifications qui sont très simples, c'est juste des installations d'extensions par exemple, pour des choses qui nous paraissent mieux pour l'usabilité du bureau et on leur évidemment leur dit qu'ils sont pas lâchés non plus, qu'ils peuvent venir nous poser des questions quand ils veulent, et on leur fournit une documentation aussi sous forme de wiki et on a notamment une documentation du bureau, ce que je pense est assez rare parce que c'est malheureusement un standard, on a l'habitude d'avoir toujours la même chose dans les deux systèmes d'exploitation privateurs les plus répandus. Vu qu'ils sont assez familiers, c'est pas nécessaire d'avoir une documentation sur ça normalement, mais nous on en a une.
D'accord. Effectivement, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, Enercop avait publié un article expliquant le choix du logiciel, notamment pour des raisons effectivement éthiques, politiques. On remettra le lien, je le retrouverai. Ou c'est peut-être une interview de Julien Noé qui est un...
Je crois que c'était quelqu'un d'autre à l'époque.
Quelqu'un d'autre.
Son nom m'échappe.
David Afagar.
Ouais, David Afagar.
David Afagar. Bon. Ne retenez pas les noms. On mettra le lien.
Peut-être.
Isabelle.
Je voulais poser la question. C'est une documentation qui est en libre accès?
Seulement pour nos utilisateurs et utilisatrices, en l'occurrence.
C'est pas partageable.
Non, mais ça, c'est assez spécifique parce que, alors nous, on parle de distribution Enercop, même si derrière c'est une Debian, ouais. Et que finalement on a fait des modifications qui sont pas forcément énormes, surtout pas celles qui sont visibles directement.
D'accord.
Mais donc, je suis pas sûr que ça parlerait à tout le monde. C'est pas ouais.
Alors ça c'est un point intéressant, c'est que vous avez pris une distribution qui existe déjà, qui s'appelle Debian, vous l'avez adaptée aux besoins d'Enercop. Dans l'introduction tout à l'heure dans la chronique, Laurette ou Laurent parlait de la Gendarmerie nationale qui depuis 2005 ou 2006 a entamé aussi une migration qu'ils ont fini. Et c'est pareil, la Gendarmerie a fait la même chose, sauf qu'elle a pris une autre distribution qui est Ubuntu. Et elle a adapté, elle a donc sa propre distribution par rapport aux besoins, et le nom de la distribution c'est Genbuntu. Donc je salue Marie-Odile qui nous a rejoint sur le salon web de l'émission pour me signaler ce nom-là. Isabelle, j'ai une petite question. Donc Julien a expliqué que quand les personnes arrivent à Enercop, on leur explique la partie un petit peu philosophie du libre, les raisons de ce choix, avant de leur montrer techniquement comment ça marche. Est-ce que vous faites la même chose? C'est pas forcément évident, parce que on pourrait se dire, j'ai d'abord commencé à leur montrer que finalement ces personnes peuvent faire la même chose qu'avec un autre système, voire mieux, et ensuite je leur parle de la philosophie. Ça pourrait être autrement, ouais. Je ne sais pas.
Alors tu as raison, mais en fait, je pense qu'on fait les deux. Maintenant que tu me poses la question, j'ai dit oui tout de suite parce que aux personnes à qui on donne un ordinateur, j'allais dire, on les prévient. Avant, c'est-à-dire à partir du moment où on dit aux gens, pour avoir un ordinateur, vous allez passer par la case d'Antanac, vous allez être adhérent, adhérente d'Antanac, du coup on leur dit, une adhésion, ça veut dire à la fois adhérer d'un point de vue verser une cotisation si vous le pouvez, mais aussi et surtout adhérer dans le sens être d'accord avec les principes de l'association et les principes du libre. Et donc du coup c'est de fait, on le fait avant. Mais tu as raison, dans les permanences d'écrivains publics ou dans les formations ou les ateliers, c'est l'inverse qu'on fait, puisqu'on leur dit, allez-y, asseyez-vous. Ah, mais je connais pas. Comment ça tu connais pas? Tu vois pas où est le traitement de texte? Voilà. Et du coup, on y va dans l'autre sens. Et c'est après qu'on amène le et pourquoi, et comment tu peux paramétrer toi-même ton ordinateur. Et parce que ces gens-là sont des personnes qui souvent vont commencer par les ateliers et ensuite vont nous demander un ordinateur. C'est souvent comme ça. Donc du coup, tu as raison, fais les deux.
Non, puis je pose aussi la question pour des personnes qui voudraient, accompagner des migrations, c'est une question qui peut se poser. Est-ce que je commence par montrer en pratique, je convainc par la pratique, est-ce que je commence par un peu expliquer la philosophie ou pas? Et je sais qu'il y a différentes approches, notamment dans les groupes utilisatrices et utilisateurs de logiciels libres par rapport à ça.
Il y a même différentes approches chez les fabricants, j'allais dire, ou les développeurs de logiciels. Par exemple, si je parle de LibreOffice, il y a des tas de gens qui me disent, ah ben oui, mais en fait, je l'ai déjà utilisé sur Microsoft. C'est-à-dire que eux, ils ont choisi de le faire en disant, on va être suffisamment costaud, même pour tenir sur d'autres plateformes, d'autres systèmes d'information et d'exploitation. Et du coup, quand après, on leur parle de LibreOffice, bah oui, ils le connaissent déjà. C'est assez futé aussi comme façon de faire.
Alors ta remarque est excellente parce que je n'y avais pas pensé, mais parce que là, sujet de l'émission, c'est on migre le système entier de Windows vers un système libre, mais une façon de commencer la migration c'est de commencer sur son Windows à installer des logiciels libres qu'on va pouvoir retrouver ensuite sur un système libre. Et donc finalement, Le système aura changé derrière, mais on utilisera le même logiciel, donc LibreOffice, OpenOffice.
Exactement.
Et
c'est ce qu'on fait parfois quand on ressent vraiment une espèce de les gens ne veulent pas, ou que les gens viennent nous voir avec leur ordinateur, puis ils sont quand même amoureux, amoureuses encore de leur ordi, puis ils veulent pas changer, et donc du coup on y va doucement, ploup, on met une petite bulle, et effectivement par exemple LibreOffice. Voilà, c'est aussi une autre façon, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de devenir nous aussi violente sous prétexte qu'on veut libérer. Ça serait dommage, non? Et donc du coup on y va parfois doucement et de manière à ce que les gens ne se sentent pas ni perdus, ni surtout dépossédés. Pour moi, ma grande peur de cette société actuellement, c'est la dépossession dans laquelle on met les personnes de ce qui leur arrive et ce qu'elles deviennent. Et là, ce que fait Microsoft, c'est ça aussi. Donc pour moi, ça participe de quelque chose d'insupportable dans le capitalisme ambiant. Et donc l'idée, c'est comment on fait pour que les gens, petit à petit, eux-mêmes y aillent, quoi. C'est pas, viens, je t'installe quelque chose. On y va doucement, tranquillement. Et donc, c'est très faisable.
Voilà, il est important de savoir, pour les personnes qui nous écoutent, que certains logiciels libres grand public sont ce qu'on appelle multiplateformes, donc comme LibreOffice ou Firefox, vous pouvez déjà les installer sur Windows avant de migrer. Dans ce même ordre d'esprit, alors c'est plutôt pour toi, Isabelle, là, toi, vous vous réinstallez un système entièrement libre sur un ordinateur reconditionné, mais il existe aussi la possibilité pour des personnes qui viendraient à des fêtes d'installation ou se faire accompagner, d'avoir ce qu'on appelle un double amorçage. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le double amorçage?
Voilà, double amorçage, ou parfois on dit double boot.
Ou double boot.
Double amorçage. Alors, l'idée du double boot, en effet, double amorçage, c'est quoi? C'est par exemple, j'aime bien prendre l'exemple toujours des étudiants et étudiantes qui parfois arrivent avec des choses, c'est pas elles qui décident, c'est leur prof ou l'université qui dit « Ah non, pas du tout, moi je trouve que FreeCAD et AutoCAD, LibreCAD, c'est pas du tout bien, je veux absolument que tu travailles avec AutoCAD, qu'est-ce qu'il fait ?» Ben, la personne, elle a besoin de son ordinateur avec le logiciel que les profs ont décidé d'utiliser. Et donc, à ce moment-là, ce qui est possible de faire, effectivement, c'est de demander à un ordinateur qui a du Windows de se pousser un petit peu gentiment. Je ne vais pas parler de trop technique, partition et autres, mais bref, on pousse un petit peu le système et l'espace qui est conservé pour les données de manière à pouvoir mettre à côté un autre système d'exploitation. Souvent on le fait avec Ubuntu parce que c'est celui qui est le plus facile, parce que nous ce qu'on aime c'est que les gens fassent avec nous, donc pour qu'ils comprennent on le fait avec eux, et avec cette distribution là ça marche très bien, on a quasi pas de bugs, alors que parfois Debian il est pas d'accord, ou bien il y a d'autres choses un peu plus complexes, donc bon, ça c'est encore autre chose. Mais donc on fait ça, et du coup l'ordinateur, quand on l'allume à ce moment là il va proposer un écran sur lequel on va dire ah, mais où est-ce que tu veux aller? Sur ton Windows ou bien plutôt sur Ubuntu? Je ne vous cache pas que si on ne répond pas, il va sur Ubuntu, parce que quand même, on est libriste, mais que si on répond, on peut aller choisir de démarrer directement là-dessus. L'intérêt, c'est que du coup, je peux continuer à avoir les quelques logiciels de plus en plus rares au fur et à mesure de mon utilisation, qui sont dédiés et spécifiques et qui ne marchent que avec Microsoft, versus à côté, je vais avoir l'ensemble de ma vie, ma boîte mail, mes recherches sur Internet, les choses que je vais écrire avec LibreOffice, les tableurs, les framapas pour discuter avec d'autres et faire des réunions. Bref, toute ma vie, quoi. Voilà, ça peut être une façon de faire.
Dans le même ordre d'idées, tout à l'heure, Julien, tu as expliqué que la grande partie du parc informatique poste de travail d'Enercop est en logiciel libre. Est-ce qu'il y a eu des logiciels métiers, par exemple, ou autres logiciels qui ne tourne que sous Windows, que vous avez dû garder, ou est-ce que techniquement, par exemple, vous avez fait tourner sur un système libre? Est-ce qu'il y a ce genre de choses qui existent encore? Parce qu'on sait, enfin, il y a longtemps, c'était la problématique de certains logiciels métiers qui ne tournaient que sur un environnement particulier. Est-ce que vous avez, vous, cette problématique à Enercop?
Oui, on l'a. Et donc, on a malheureusement, comme tu disais, du double amorçage sur certains postes. Relativement peu. On essaye de trouver des solutions alternatives, mais des fois c'est juste pas possible. En plus, on est dans il y a des progiciels, comme on dit, qui n'existent tout simplement pas en version libre parce que c'est trop spécifique. Par exemple, des applications qui pour gérer le photovoltaïque, des choses comme ça. Et alors, ce qu'on a pensé faire dans ces cas-là, c'est d'utiliser des bureaux virtuels pour du coup éviter d'avoir un double boot. C'est pas toujours possible, mais là on est en train de travailler dessus pour essayer de renforcer ça, plutôt que d'avoir à installer des Windows. Mais heureusement, dans la plupart des cas, les personnes peuvent travailler avec les logiciels libres et non libres qui sont disponibles sous GNU Linux.
D'accord. Et quelle est leur réaction à la personne? Parce que bon, je suppose que quelqu'un qui candidate chez Enercop, bon déjà quand on candidate chez Enercop, d'avoir un petit côté militant quand même, forcément, ou en tout cas ce que j'imagine. Comment la personne qui rejoint Enercop accueille le fait que globalement elle va utiliser un système qu'elle ne connaissait pas? Peut-être que certaines personnes déjà utilisent des systèmes libres, mais on se met dans l'hypothèse que c'est des gens qui utilisent soit un Mac, soit un Windows. Comment ils accueillent, ces personnes accueillent cette nouvelle?
Ben ça dépend. La plupart du temps, ça se passe très bien. Ils sont curieux. On pose toujours la question, est-ce que tu as déjà utilisé une distribution GNU Linux? Est-ce que tu vois un petit peu ce que c'est? Ça arrive souvent, la moitié du temps à peu près, qu'ils ont au moins une idée un petit peu de ce que c'est. On montre du coup la formation, on montre le bureau, on montre comment ça fonctionne. Tout de suite, ils disent, on leur pose la question, est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça te paraît pas trop compliqué? Ils disent, non, effectivement, je retrouve mes logiciels, ceux-là, je les connais, on les lance comme ça, on les déplace comme ça, bon, c'est très bien, c'est le fonctionnement est simple. Et pour les personnes plus réticentes, souvent, des personnes qui, de toute façon, vont avoir dans leur métier besoin de logiciels qui n'existent pas sous GNU Linux. Donc là, finalement, c'est un cas particulier. Mais on n'a jamais eu de personnes vraiment réticentes à utiliser un bureau GNU Linux. À partir du moment où il n'est pas bloqué dans son travail, s'il a un petit peu de mal à l'utilisation, on va l'accompagner.
D'accord.
Et ça, c'est toujours bien passé.
Okay. Alors, même question pour Isabelle avant la pause musicale.
J'avais une question. Dans les logiciels métiers, est-ce qu'on est d'accord pour dire que, tout ce qui est des logiciels d'entreprise classiques, donc compta, paye, etc., vous arrivez à les faire sur des logiciels libres, versus c'est plus des choses métiers sur lesquelles,
Non, malheureusement non. Mais ça c'est un peu. J'aimerais bien aussi, mais ça c'est un peu parce que on n'était pas assez nombreux à être libristes dans au moment où ont été faits des choix, on n'a pas pu peser assez pour avoir d'autres choix. Mais les fois où on a pu, c'est quand même arrivé mais c'est plus des logiciels qui sont moins justement très courants dans les entreprises qu'on a pu mettre en libre. La compta, malheureusement.
La compta, non. Ben voilà, c'est ça. Et c'est work in progress, c'est-à-dire vous allez changer après ou pas du tout?
Parce que c'est au contraire, ça a été tenté et puis ça n'a pas fonctionné. Mais on pourrait retenter plus tard. Mais typiquement, la compta, c'est les seules personnes qui sont sous Windows chez nous.
C'est souvent le cas. Parce que c'était mon métier d'avant, de faire du conseil en RH, et c'était vraiment des choses comme ça compliquées sur lesquelles les gens voulaient absolument garder les grands classiques, les grands modèles sur la compta et sur la paye, etc. Comme si le reste était, j'ai peur, ça va pas bien marcher, je vais avoir des problèmes avec mon commissaire au compte, des choses complètement. Qu'en fait, il y a des solutions.
Ouais, mais on va peut-être en parler tout à l'heure, mais le problème, c'est que moi, personnellement, je connais pas assez bien, par exemple, les tableurs libres pour dire, ça, tu peux le faire exactement de la même manière, ce qui est souvent le cas, que dans Excel,
pour ne pas
le
citer. C'est une question.
Mais il faut connaître très bien le logiciel, il faut très bien expliquer, il faut que la personne soit prête
Bon, c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a des choses encore à faire pour se libérer, c'est cool.
Ouais, complètement. Mais il y a aussi des améliorations à avoir aussi au niveau des logiciels. C'est compliqué d'être exigeant à ce niveau-là.
Oui.
Mais oui.
Sauf à contribuer au développement des 10 logiciels.
Tout à fait.
Alors, on va faire une pause musicale. Et comme disait la chanson chantée tout à l'heure. Ah non, j'ai pas encore le lancement. coupe-la, s'il te plaît. Voilà. Merci. les pauses musicales s'annoncent, Baguette. Toujours. je disais, la chanson, et là, j'ai parlé de la chanson de Laurette tout à l'heure. Continue d'avancer, continue d'espérer, un pas après l'autre. On est dans cette logique-là. Donc, effectivement, nous allons faire une pause musicale, et je salue Vincent Calame, le chroniqueur Vincent Calame, qui a fait ce choix de pause musicale. C'est J'ai Wish in Bollywood par les Bretons de l'Est. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune. La voile est possible.
tikita ding tagada ding ding ta ding tagada ding ding tagada ding tagada ding ding tagada ding ding ta ding tikita dum ta ta tikita dum tak tikita ding ding ta dum ta ding dum ta dum ta ding tagada dum ta ta ding ta ti pu pu cha 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 tikita pu cha pu pu cha tikita pu cha pu pu cha tikita pu cha pu cha tikita 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 pu
Nous venons, je me suis fait avoir, j'avais oublié la fin. Nous venons d'écouter J'ai Wish in Bollywood par les Bretons de l'Est, disponible sous licence Art Libre. Et donc, deuxième tentative, message aux personnes qui nous écoutent en FM et en DAB. Et plus, cette année, on va tenter des expériences. Et l'expérience du jour, c'est n'hésitez pas à nous envoyer un SMS, par SMS, un avis ou un commentaire sur l'émission en cours, ne serait-ce qu'un smiley, visage positif, par exemple, un cœur ou autre. Le numéro 06 60 68 89 31. Je répète, 06 60 68 89 31.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Donc nous allons poursuivre notre discussion donc qui concerne la migration de Windows vers un système libre sur le poste de travail, toujours avec Isabelle Carrère de l'association Antanac et Julien Négros, responsable technique de l'administration système chez Enercoop, fournisseur coopératif français d'électricité d'origine renouvelable. J'ai une petite question sur le retour des personnes que vous accompagnez. Alors on va commencer d'abord par Isabelle. Donc les personnes qui récupèrent donc des ordinateurs reconditionnés sur lesquels vous avez installé une distribution logicielle libre, ces personnes repartent avec. C'est quoi le retour au bout de quelques temps? Est-ce que ces personnes vous font des retours sur j'en suis content, pas content, machin?
Oui, on a plein de retours. Et les meilleurs retours qu'on a simplement depuis là, une année à peu près, c'est des gens qui reviennent avec le poste en question, qui a fonctionné, donc des gens qui sont venus chercher un poste en 2019, 2020, puis qui là en 2024, 2025 reviennent et disent « Bon, alors c'est super, il a super bien fonctionné, là j'ai telle nouvelle demande ou nouveau besoin et du coup comment je vais faire ?» Et donc là, c'est des retours hyper positifs. On n'a pas rencontré, à part des gens qui ont cassé le matériel, mais ça c'est une autre question qui n'a rien à voir avec le libre ou pas le libre. C'est des gens, voilà, l'ordinateur tombe, l'écran se casse, ou la batterie vraiment défectueuse, des choses comme ça, des choses matérielles. Mais sur les aspects logiciels libres, jamais on a eu de soucis. Il nous est arrivé quelques fois que des gens, alors qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas le faire et qu'ils ont signé une charte, reviennent, puis on s'aperçoit quand ils viennent en disant « Ah, il y a un truc de cassé. »
C'est quoi cette charte?
Une charte qui dit... c'est pour écrire avec des mots. Avant, on le faisait pas, mais là, depuis 3-4 ans, on le fait. De que ça soit écrit quelque part, le fait qu'ils sont d'accord avec nos principes et qu'ils s'engagent à ne pas réinstaller du Windows sur les postes et que, etc. C'est un engagement. Là, on va pas les emmener chez les flics s'ils le font. Mais, et donc, du coup, on arrive parfois à voir quelques jeunes qui « Ah oui, mais ça marchait pas tel et tel jeu, donc du coup, j'ai remis ». Du Windows, parce que, bon, voilà, on a eu ça. Donc ça peut être des retours qui peuvent arriver, parce que sur les jeux, effectivement, les gens sont gourmands sur des trucs, on sait pas pourquoi. Mais sur le reste, non, les trucs, les gens sont positifs. On a vraiment, ce qu'on peut dire là en disant, c'est que, je dirais 85%, voire 90% dans certains cas, des usages communs habituels sont couverts par ce qui existe et ce qui est mis à disposition par tout le monde. C'est vraiment sur des sujets hyper précis et pointus que les gens, parfois, n'arrivent pas. Et sinon, S'ils n'y arrivent pas, c'est que c'est de la flemme et de la paresse. Et on sait que ça existe, la paresse chez les humains et les humaines. Hein. Que donc, parfois, on a envie de faire des choses qu'on connaît simplement, puis on n'a pas envie de changer. Mais sinon, s'ils sont d'accord pour y aller, on n'a que des retours positifs.
D'accord. Alors, Julien, ma question est un petit peu différente. Ça concerne donc les personnes qui travaillent chez NERCOP, qui débarquent, qui donc utilisent au bureau un système d'exploitation libre, et qui, pour sans doute la plupart, chez Zelle utilise un système autre, privateur, Windows ou Apple. Est-ce que vous avez des retours sur l'évolution de leur pratique informatique individuelle? Est-ce que, par exemple, certaines de ces personnes sont passées en logiciel libre aussi à la maison?
Eh ben, ça peut arriver. c'est malheureusement rarement proactif, à part si les personnes ont un profil militant, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, qui ont déjà un peu le terreau pour que ça fonctionne, quoi. C'est déjà, ça arrivé plusieurs fois, effectivement, qu'il y a des personnes qui disent, bah, moi, du coup, j'aimerais bien. Et des fois, c'est pour aller même plus loin notamment le respect de la vie privée, des choses comme ça, et il y a des distributions GNU Linux qui sont spécialisées là-dedans. Mais sinon, il y a le cas où on est un petit peu comme ce que fait Isabelle. On donne des ordinateurs aussi quand ils sont en fin de vie ou quand les personnes partent. Enfin, en fin de vie, je veux dire, pardon, qui sont plus utilisables ou que des personnes partent et peuvent garder leur ordinateur. Dans ce cas-là, on leur fournit avec un GNU Linux qui est pas la distribution NERCOP pour le coup. Ça dépend de l'ordinateur, mais souvent c'est du Ubuntu. Et on leur dit, tu retrouves un petit peu ce que tu avais au travail. Ce qui se passe là avec Windows 10, c'est l'occasion de faire ce qui a déjà été fait dans le passé à NERCOP, une install party. Je vais essayer d'organiser ça avec notre équipe dans l'année. C'est l'occasion de faire ça avec des personnes qui en plus ont déjà utilisé un petit peu ces environnements-là.
Alors justement, ça tombe bien parce que dans la ligne d'en-dessous de mon séquencier, de ma préparation, c'est quoi une install party, une journée d'installation, et comment ça se passe, en fait? Donc, tu as commencé, Isabelle complétera. Donc, c'est quoi une install party, terme anglais?
Une install party, c'est une journée ou plusieurs journées où les personnes viennent avec leur matériel, leur ordinateur, et on leur installe un système libre, donc GNU Linux, ou la plupart du temps, pour remplacer ou pour mettre à côté de leur système privateur. Et on en profite pour faire ce qu'on fait aussi à NERCOP, la formation, l'explication de ce que c'est. Alors, comme les personnes sont volontaires, des fois, elles ont un peu une idée déjà de ce vers quoi elles vont, mais elles se font accompagner techniquement et aussi sur l'utilisation. Et j'ai envie de rebondir un petit peu, tu parlais des jeux tout à l'heure. C'est parce qu'on on s'adresse au grand public, là, il faut savoir que ça fonctionne vraiment beaucoup mieux qu'avant, les jeux sous GNU Linux. C'est notamment grâce à Valve, même si c'est pas libre ce qu'ils ont fait, ça permet de jouer à quasiment tous les jeux qu'ils proposent eux, quasiment tous les jeux en fait, et ça fonctionne très bien. Moi, à titre personnel, je fais ça, et même des jeux très récents tournent magnifiquement bien.
Mais c'est pas libre, on est d'accord.
Mais c'est pas libre. Voilà. les jeux sont pas libres, souvent.
Les jeux sont pas libres. Ouais.
Mais c'est vrai que la remarque de Julien, c'est vise à l'historique, effectivement, des jeux, des gamers ou des gameuses qui, effectivement, retrouvent aujourd'hui un environnement sur lequel elles peuvent jouer. Évidemment, c'est des jeux qui ne sont pas libres. Et je suppose que de toute façon, quand il y a des install parties, journée d'installation ou fête d'installation, quel que soit le terme, les personnes expliquent justement, là, on vous installe, ça, c'est libre. Mm. Et puis ça, effectivement, c'est pas libre, mais vous le savez et vous faites le choix de l'installer ou pas, quoi.
C'est ça.
Donc vous, Antanac, par exemple, vous ne faites pas entre guillemets de fête d'installation parce que vous faites ce travail avant.
C'est la fête tous les jours chez nous.
C'est la fête tous les jours chez vous. Mais ce qu'on peut peut-être dire, et c'est peut-être là, peut-être que toi tu pourrais en parler, Isabelle, c'est le rôle des groupes d'utilisatrices et d'utilisateurs de logiciels libres qui partout en France organisent régulièrement donc des journées d'installation pour donc aider les personnes à migrer vers le logiciel libre. Et ces groupes, on les trouve partout en France, en fait.
Absolument, on les trouve un petit peu partout. On est en contact, d'ailleurs, avec certains collectifs comme ça, qui sont ailleurs, qui à Nantes, à Rennes, à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille, enfin voilà. Et du coup, on est parfois à Antanac aussi, comme un support aussi, soit pour apporter une contribution de quelque nature qu'elle soit avec quelqu'un qui se déplace, soit des ordinateurs qu'on donne à ce moment-là. Enfin voilà, des choses comme ça qui peuvent qui peuvent se passer. Et c'est mais ce que je trouve intéressant, c'est que les install parties, on en a eu fait à certains moments pour au début, au démarrage d'Antanac, avant qu'il y ait autant de gens qui viennent directement chez nous pour se faire connaître, et puis aussi pour travailler, parce qu'on apprend au fur et à mesure, nous aussi, les Antanakiens, Antanakiennes. Et donc, c'est intéressant de rencontrer différentes marques d'ordinateurs, différentes, avec des composants. Bah tiens, celui-là, quand il a plus de RAM, ou même si le CPU est pas trop trop génial, donc le processeur n'est pas trop trop performant, de fait, en lui rajoutant un peu de mémoire vive, un peu plus que ce qu'on ferait habituellement, ah bon, on arrive à lui mettre quand même telle distribution. Qui a un bureau de tel et tel. Voilà, tu as parlé de GNOME tout à l'heure. Nous, souvent, on met plutôt du XFCE qui est plus léger. Mais on pourrait, voilà, c'est des termes techniques. Mais c'est juste pour expliquer que c'est des bureaux, des façons dont on a une interface, sur son ordinateur, qui peuvent être différents et qui impliquent des choses différentes dans le fonctionnement et qui demandent des ressources plus ou moins conséquentes, plus ou moins importantes. Du coup, pour nous, c'est intéressant aussi d'aller voir des ordinateurs différents et pas simplement la vague de blam, tous les nouveaux qui nous sont donnés par une entreprise. On reçoit 50 achats. HP, 60, voilà. Donc du coup, ça peut être chouette de continuer, et c'est pour ça qu'on aime bien aussi quand des gens viennent avec leur propre ordinateur et qu'on travaille avec la personne sur qu'est-ce qui va être le plus adapté là, et par ailleurs, qu'est-ce que la personne, avec quoi elle se sent le mieux. Ça, c'est sympa aussi.
Et on peut préciser que dans une même famille ou même dans un même lieu physique, on peut avoir différents environnements graphiques parce que on n'a pas les mêmes bureaux, là, comment on gère les fenêtres, etc. Et donc, on peut avoir effectivement différentes, et c'est une des forces du logiciel libre, d'avoir ce choix.
On fait ça parfois quand on donne des UC, donc parce que là, on parle comme si c'était
des unités centrales.
Portables, ouais. Mais voilà, quand on donne une unité centrale dans une famille, par exemple, où on sait qu'il va y avoir 5 utilisatrices, bah, du coup, on met des bureaux et des environnements pour chaque personne, parce que les jeunes, ils veulent pas qu'on aille fouiller dans leurs affaires, leurs documents, et on peut tout à fait leur mettre un bureau différent, et donc on peut s'amuser aussi avec des choses.
Voilà, et on peut préciser qu'il y a des distributions orientées enfants, comme par exemple Primtux, si vous voulez, et il y a même des logiciels libres, comme j'ai compris, par exemple, spécifiques, avec différents niveaux, voilà. Donc, pour obtenir de l'aide, donc, il y a ces fameux, donc, groupes d'utilisatrices ou d'utilisateurs de logiciels libres, des structures comme Antanac, mais, il existe aussi sans doute des forums sur lesquels les personnes sont très actives, non?
Des forums sur Internet, tu veux dire?
Ouais, des forums sur Internet, ouais.
Alors ça, j'en connais pas. Là, je saurais pas, Julien, je saurais pas répondre là-dessus. Moi.
Bah, il y a,
à part les forums de chacune des distributions.
Oui.
Où on va chercher. Ah, pardon, c'est ça que tu parlais. Je crois que c'est
ma question, c'est là. Est-ce qu'il y a des forums? Est-ce qu'ils sont spécifiques ou autres?
Bah, oui, d'accord. Moi, c'est les seuls que je connais, c'est ça.
Bah, justement, ouais, mais finalement, les wikis et les forums des distributions sont pas forcément cloisonnés à leur distribution. Il y en a qui sont très bien fournis, très actifs. Bon, alors c'est plutôt anglophone, mais on pense
c'est pas obligatoirement grand public, si je peux me permettre.
Ouais, mais alors il y avait la volonté de faire ça, je trouve, côté Ubuntu la communauté et l'association française Ubuntu a pas mal contribué là-dessus. Je crois que c'est toujours le cas, on se retrouve souvent quand on cherche des choses sur internet à se retrouver sur un wiki d'Ubuntu FR. Et il y a aussi Debian qui est pas mal non plus, et il y a de l'entraide sur internet trouvable facilement.
Alors je réagis par rapport au salon web, parce qu'on vient de signaler quelque chose sans rentrer dans les détails, parce qu'on va en parler plus en détail bientôt dans l'émission. Il y a la ville de Grenoble qui vient de mettre à disposition, donc dans les maisons d'habitantes et habitantes de Grenoble, alors je crois de mémoire qu'il devait y avoir une dizaine, un kit logiciel libre, donc version numérique et version papier, donc avec des informations sur des logiciels libres à découvrir, des services libres aussi, pour les gens dont tu parlais par exemple tout à l'heure de Framapad, c'est un bloc-notes coopératif en ligne, et si les personnes sont intéressées, je les renvoie sur le site chatons, donc avec un s.org, chatons.org, sur lequel il y a plein de services libres à disposition. Donc la ville de Grenoble vient de mettre en place ce kit logiciel libre, et je pense qu'on les aura bientôt dans les bras vous pour en parler plus en détail. Mais le temps file, j'ai envie de poser une question par rapport justement à ces fêtes d'installation ou autres. Quelles erreurs ne pas commettre pour aider les gens à migrer vers le libre? Parce que je donne le contexte, il y a 10-20 ans ou quelque chose comme ça, c'était telle personne maîtrisait telle distribution, donc voulait absolument, par exemple, l'imposer à une personne. Voilà, c'était une erreur assez classique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des erreurs à ne pas commettre ou des points de vigilance par rapport au matériel, je ne sais pas. Qui veut commencer? Julien?
Ouais, bah, un petit... Je pense que c'est il faut penser aux besoins de la personne. Il faut un petit peu lui demander ce qu'elle compte faire, quel matériel elle utilise aussi, quel périphérique, enfin quelle chose elle va brancher sur son ordinateur. Il faut pas qu'elle regrette d'être passée sur un système libre si elle se retrouve coincée pour faire les choses qu'elle a l'habitude de faire. De manière générale, discuter avec elle des habitudes, des usages et tout ça, ça permet de savoir un petit peu ce qu'on peut lui proposer ou pas. Avec du logiciel libre t'en parlais tout à l'heure, il faut que les personnes se rendent compte que avec un système libre elles reprennent possession de leur matériel et pas à l'inverse quoi. Malheureusement elles ont besoin d'un logiciel qui n'existe pas ou qui existe de manière moins efficace en libre, il faut pas forcer la chose, il faut l'amener comme tu disais avec petite graine quoi, peut-être pas à pas, peut-être un autre logiciel auquel elles n'avaient pas pensé. Je pense qu'il faut pas être directif quoi, trop.
Isabelle, sur cette question.
Ouais, et moi j'ajouterais, je suis d'accord avec ça. J'ajouterais quand même qu'il y a des problématiques. Par exemple, nous à Antanac, c'est vrai que je peux pas dire le contraire. Chaque Antanakien, chaque personne du noyau d'Antanac, on est 15-20 personnes à peu près à être là comme ça au quotidien, puis à faire des choses comme ça sur les ordinateurs. On a chacune nos préférences entre guillemets. Et c'est vrai qu'on aurait tendance aussi à dire, bon, moi je vais plutôt installer ça. Et bon, il y a une question qui reste quand même vraie, c'est la question. Même si ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré ces dernières années, c'est la question de ce qu'on appelle les pilotes, les drivers. C'est-à-dire que si j'ai une imprimante à mettre parce que la personne, elle a son imprimante, puis qu'elle va pas en changer, puis que l'imprimante, voilà, ça nous gonfle, ça vraiment. Mais il faut bien qu'on en tienne compte, tu vois, là, c'est plus le genre, c'est plus qu'est-ce qu'elle veut, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire. Bon, ben là, ça, c'est une vraie problématique parce que il y a quand même toujours, de manière résiduelle, des imprimantes qui vont mieux fonctionner, telle marque avec telle. Il y a vraiment des distributions qui ont fait des gros, gros, gros efforts, donc les listes de ce qu'il y a comme pilote sont vraiment énormes, donc c'est vraiment chouette, on arrive à trouver. D'autres sur lesquelles c'est moins évident, d'autres qui sont de toute façon complètement, il y en a pas. Tu te débrouilles, tu vas le chercher chez la marque de l'imprimante, parce que j'ai décidé que j'étais libre jusqu'au bout et donc du coup je ne mettrai aucun pilote propriétaire, voilà, donc c'est des choix aussi qu'il faut connaître, il faut comprendre, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'étais contente qu'on voit plein de sortes de matériel de manière à se faire une bibliothèque personnelle aussi de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas bien, personnel ou pour toute l'assaut d'Antanac, donc il y a cette question-là. Sur le reste, sur les autres outils, quand tu parlais d'autres périphériques, je pense que après, sur la question du son, les mini-enceintes ou un deuxième écran ou le wifi ou des choses comme ça pour toutes, ça fonctionne. On n'a pas de gros soucis là-dessus. Moi, les gros soucis qu'on a rencontrés, c'est vraiment la question des imprimantes.
Plutôt. Non, sur les choses simples entre guillemets, voilà. ça va. Mais par exemple, si on veut mettre à jour le logiciel de sa voiture, parfois c'est via un logiciel qui n'existe que pour Windows.
Oui. Comme ça, là-dessus. Oui, c'est ça. Il y a des choses. Oui.
Dans les liens aussi, mais je crois qu'il est déjà sur la page de tout à l'heure. On parlait donc des groupes d'utilisatrices du Zator Jérémy. Il y a aussi une initiative récente d'une carte où on retrouve des parrains et des marraines pour accompagner des gens vers des migrations. Donc là, c'est des personnes individuelles qui s'engagent à vous aider. Les liens sont sur la page de l'émission, hein, sur libravo.org/253 ou dans les notes de l'épisode. Alors, on arrive bientôt à la fin.
Je peux rajouter un truc juste sur la question précédente parce qu'il y a un autre paramètre qui pourrait être important aussi, c'est la question de quand on discute avec la personne, il faut qu'on arrive aussi à comprendre qu'est-ce qu'elle va être capable ou pas d'accepter comme chose qu'il va falloir reparamétrer régulièrement avec des mises à jour. Donc, est-ce qu'on lui donne une distribution qui est, j'allais dire, très maternante, structurante, qui va tout faire, tout préparer dans la version suivante, ou bien est-ce qu'il faut prévoir que elle va être libre, puis c'est pas grave si elle a à refaire un truc, elle va être mentalement elle pourra le faire quoi. Il y a des choses comme ça qui sont peut-être plus fines à trouver. Ça c'est moins évident.
Oui. J'avais une question que j'avais oublié de te poser tout à l'heure sur l'accompagnement typiquement entreprise. Vous avez un service informatique en interne à l'Enercop, mais il y a des entreprises, des sociétés de services spécialisées qui peuvent accompagner, je suppose, la migration. Même sur le poste de travail pour des entreprises, ou des associations, des collectivités.
Absolument. Nous, on travaille de manière étroite avec Historex, qui nous fournit la distribution. Et il y a d'autres entreprises qui font ça aussi, qu'on peut qu'on peut trouver notamment sur le réseau Libre Entreprise, hein, si je ne dis pas de bêtises, et d'autres aussi. Oui, si on a la volonté, on peut se faire accompagner, sans problème.
D'accord. Avant la question finale, est-ce que vous avez des liens, des ressources que vous aimeriez partager, ou des conseils, des derniers conseils par rapport à cette thématique ? Alors, tant que je vous réfléchissais, par exemple, parce que sinon je vais oublier, par exemple, si pour les personnes qui nous écoutent en région parisienne, ben, chaque premier samedi, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc à la Villette, il y a ce qu'on appelle le premier samedi du libre, qui est organisé par notamment Parinux, qui est le groupe utilisatrice de gestionnaire de logiciels libres. Si vous voulez trouver d'autres éléments de ce genre, vous allez sur le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org.
Il faut aussi mettre le site évidemment de Framasoft, dans lequel il y a quand même aussi beaucoup de choses d'explications qui sont hyper bien faites, très pédagogiques, pour voir de quoi on parle, et notamment pour toutes les utilisations des associations et des collectifs. Ça me fait toujours hurler quand je vois que des associations sont encore avec Apple ou avec Microsoft. Moi, j'arrive pas à comprendre comment des gens militants. Alors je sais, ils me disent après toujours, ah mais Isabelle, on peut pas être s'occuper de tout, donc nous on a notre sujet, et voilà, je trouve qu'il est important. Mais oui, c'est pour ça que c'est chouette que là tu sois là et que tu démontres qu'en fait c'est possible aussi de faire les deux, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé simplement d'être sur son terrain de voilà, toi c'est la question de l'énergie renouvelable et du partage autrement de la voilà, de cette distribution de ressources versus le libre. On peut faire les deux quoi. Et donc voilà, moi ça j'aimerais vraiment bien que des associations utilisent de plus en plus, et qu'on arrête de me proposer des trucs avec de Google ou je sais pas quoi pour répondre à des choses pour des assos. Moi, je refuse désormais, personnellement, après c'est un choix personnel, pas antanaquin, mais je refuse personnellement de répondre si on m'envoie un Google Forms et non pas un Framaforms. Des choses comme ça.
Alors, je précise, avant de vous laisser la fin de conclusion par rapport à Framasoft, qu'il y a deux choses. Donc, il y a Framaspace, c'est l'accompagnement pour justement des associations sur l'utilisation de services libres. Alors on parle pas de poste de travail, de migration, mais de services libres. Ouais. Et sinon, le site que j'ai cité tout à l'heure, Les Chatons, chatons avec un S, donc .org, on mettra les liens qui, pareil, vous retrouvez un certain nombre de services que vous pouvez choisir par rapport à un service ou simplement par rapport à une fonctionnalité. Mais là, on parle vraiment de services, on parle pas de système d'exploitation libre, mais c'est effectivement très complémentaire, et puis surtout ça peut être une première étape avant de migrer vers du système libre.
Et après on pourrait faire la suite, mais ça serait l'objet d'une autre émission sur les téléphones.
Exactement, mais alors oui, avec plaisir, on pourrait effectivement faire la migration sur les téléphones. C'est un peu plus compliqué, mais on en a déjà parlé il y a quelques années sur Libre à vous. Alors si ça a pas mal évolué depuis, donc effectivement, on pourra en refaire une migrer effectivement sur un système libre sur un téléphone. Je crois que la dernière fois c'était il y a 2 ans avec Murena et Fairphone, si je me souviens bien, avec Gaël Duval et Agnès Crépet.
Un super boulot.
Qui font un super boulot effectivement. Donc dernière question, on va commencer par Julien, c'est la question finale traditionnelle. Pour conclure, quels sont les éléments clés à retenir de cette émission, en 2 minutes maximum, chacune et chacun, donc toi Julien.
Eh bien, je dirais qu'on a tout à gagner collectivement en tant que société à passer sur le logiciel libre, donc ça, des logiciels et évidemment le système d'exploitation, parce que ça va avec. Que c'est pas évident parce que il y a des habitudes qui ont été prises, il y a des entreprises qui ne vivent que par la vente de licences et qui fournissent des services qui sont beaucoup utilisés, et que quand il y a des habitudes dessus, quand des fois même il n'y a pas d'autres alternatives, et ben c'est pas évident de passer le pas. Mais quand on peut le faire, ben ça fonctionne très bien. Au niveau du système d'exploitation, c'est sûr que oui, moi j'en suis convaincu. En 8 ans d'expérience là et mon expérience personnelle, les distributions fournissent quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et qui est sécurisé, facilement mis à jour, facile à utiliser aussi. C'est plus du tout l'époque qu'on avait il y a 20 ans du Linux un peu la tour d'ivoire quoi. Donc il reste à s'affranchir des logiciels privateurs qui restent quoi.
Merci. Isabelle?
Ben voilà, moi je vais être évidemment, vous en doutez, dans le même sens, c'est-à-dire que de façon très très concrète, on peut toutes là affirmer que GNU Linux, avec les développements et les différentes distributions dont on a parlé, existent bien, sont fiables, représentent un bien commun, Et donc, le libre, c'est à vous, c'est à nous. La seule chose à faire, c'est de s'en saisir de manière très, très, très simple, tranquillement, à son rythme. Et que c'est l'occasion d'une prise de conscience, là, pour tout le monde et toutes les personnes, tous les collectifs. Et puis quand même, je ne peux pas ne pas dire que là, on est le 9 septembre. Et que le 9 septembre, c'est la veille du 10, et que du coup, c'est un sujet hyper politique, cette question du libre et cette question des choix, des outils que nous avons, et des réponses que nous apportons à des entreprises, des sociétés capitalistes qui veulent nous faire aller dans un sens plutôt que dans un autre. Et donc, sachons ce que nous voulons, c'est-à-dire que nous, à Antanac, en tout cas, on veut co-construire les politiques publiques, on veut pouvoir participer à qu'est-ce qui est décidé. Alors je sais que dans les services publics, vous allez en parler, lieu libre dans les services publics, là on va en parler dans l'AVE très très bientôt, mais du coup pour moi c'est un truc très très important aussi de pouvoir soutenir des changements là aussi. Et si les changements ils se font dans les services publics, on va faire quelques pas de plus. Donc que les personnes le fassent, les collectifs, les assos, les entreprises et ensuite les publics, c'est génial, allons-y.
Eh bien, écoutez, merci tout à vous deux. Hein. Donc, nous étions avec Isabelle Carrère, donc de l'association Antanac, Julien Négros, responsable technique chez Enercop. Et nous reparlerons de ce sujet, notamment par rapport aux collectivités. Et donc, dernière fois que je vais donner le numéro, je vais le dire le plus lentement, Marie-Dille, j'ai bien vu ton message tout à l'heure. N'hésitez pas, pour les personnes qui nous écoutent en FM et en DAB+, à nous envoyer un SMS pour nous faire un retour. Vous pouvez un petit message ou simplement utiliser un smiley, le numéro 06 60 68 89 31. Je répète, 06 60 68 89 31. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Luc, qui je crois va continuer sur un sujet proche. En attendant, nous allons écouter Confluence par Cloud Kicker. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée écoute de Cause Commune. La voix des possibles. Thank you. Nous venons d'écouter Confluence par Cloud Kicker, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY 3.0.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons poursuivre pour le sujet suivant. La pituite de Luc est une chronique rafraîchissante au beau goût exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Il a été prouvé scientifiquement qu'écouter la pituite augmente le pouvoir de séduction, augmente le succès dans les affaires ou aux examens et décuple le sexe à pile. Retour de l'être aimé, il reviendra manger dans votre main comme un petit chien. Bon, évidemment, je laisse toute la responsabilité de cette description à l'auteur de la chronique. Donc nous allons écouter le thème du jour de la chronique La pituite de Luc qui va porter sur la souveraineté numérique, une urgence.
Et me voilà de retour pour une nouvelle saison de Pituite. Je ne me sens ni trop frais, ni trop dispo après un été passé à regarder le fascisme et le totalitarisme gangréner nos civilisations. Les gens même qui ont argumenté que toutes ne se valent pas sont en train de le démontrer en nous faisant plonger dans la barbarie. Si la situation a un mérite, c'est de faire remonter à la surface la question de la souveraineté numérique. Mais la situation est tellement merdique que ça me coupe mon plaisir mesquin d'asséner des « on vous l'avait bien dit à tout va ». En tout cas, bonne nouvelle, la ville de Lyon vient d'annoncer qu'elle migrait vers OnlyOffice. Mais c'est petit joueur comparativement au Danemark qui lâche Windows et la suite bureautique Microsoft. Ils ont clairement intérêt à se bouger sur le sujet car ils sont en première ligne pour rendre l'Amérique plus grande, littéralement. En effet, Trump a toujours le projet de leur piquer le Groenland. Ce qu'on ignore toujours, c'est qui, de l'ancienne reine Margrethe II qui a abdiqué en 2024, ou de Marie Donaldson, actuelle reine consort, chantera libéré délivré une fois que le gouvernement danois aura atteint son objectif. Je sais bien qu'une chanson copyrightée par Disney, l'ogre du domaine public, est tout à fait inadaptée pour ce genre de célébration. Mais maintenant que les IA siphonnent Internet en se torchant avec le droit d'auteur, ça n'a plus d'importance, non? Toutes ces années d'embrouilles, de DRM, d'Adopi, d'artistes agonisants pour découvrir en 2025 que Meta pirate comme un goré depuis plusieurs années. La boîte télécharge en toute illégalité tous les bouquins qui traînent sur des trackers de torrent. Et pour s'assurer que son seed ratio reste supérieur à 1, elle diffuse des téraoctets de porno. Oui, oui, sur des trackers torrent accessibles à n'importe qui. Les mineurs n'ont même plus besoin de mentir en cliquant sur le bouton qui assure qu'ils ont bien 18 ans ou plus. C'est assez cocasse quand on pense aux mesures prises par le gouvernement français pour que les sites porno installent un système permettant de certifier que leurs visiteurs sont majeurs. Au même moment où l'ARCOM met la pression aux pornographes pour qu'ils se mettent en conformité, Meta continue à censurer le moindre téton sur ses réseaux sociaux tout en diffusant massivement des films de cul piratés. Je sais bien que l'Adopi est morte, phagocytée par l'ARCOM, mais je pensais quand même que les 9 Nazgûl, autrefois chargés de sa gouvernance, étaient encore en activité. Mais qu'est-ce qu'elles foutent? Si ça se trouve, Franck Rister, Eric Walter, Mireille Imbert-Carreta sont en train de réunir leur vieille équipe pour de nouveau aller sauver les auteurs et aller botter des culs de pirates à la Silicon Valley. J'imagine que ça prend du temps parce qu'avant de reprendre les armes, il faut que Christine Albanel comprenne que le Firewall Open Office est sans effet sur les IA. Ou alors... Malgré leur talent, le rituel pour extraire Frédéric Mitterrand des enfers est plus compliqué que prévu. Vous n'êtes pas convaincu, mais une autre explication crédible serait que leur indignation et leur hargne à défendre une certaine vision du droit d'auteur, hier, sont inversement proportionnelles à la puissance de l'adversité. Ça ferait d'eux des lâches et des hypocrites, et ça, je refuse de le croire. Autre signe que certains esprits affûtés sentent le vent tourner, une commission sénatoriale a fini par faire avouer à Microsoft qu'ils étaient incapables de garantir la protection des données personnelles selon les règles européennes. Qui aurait pu prédire ? Microsoft a dû admettre qu'ils feraient ce que le gouvernement américain leur demanderait de faire, mais en ajoutant que ça n'était jamais arrivé jusqu'à maintenant. Espéraient-ils vraiment rassurer les sénateurs ? Chez Microsoft, il n'y a pas que le code qui est buggé. Les règles européennes qui s'appliquent aux entreprises de la tech sont dans le viseur de Trump. Ce n'est pas un hasard. Quelques patrons de GAFAM, dont Énergie Masculine Zuckerberg, se sont plaints auprès de lui d'être empêchés de répandre leurs méfaits en Europe. Trump surfe sur une dynamique totalitaire au sein de laquelle la réalité doit se plier à la fiction, et qui n'a ni règles ni limites. Cette soif de pouvoir total est au final un truc que le squatteur de la Maison Blanche partage avec les GAFAM. Ils n'ont aucune intention de se limiter aux États-Unis, et c'est pour cela que Trump prétend qu'en coulisses, ses homologues européens l'appellent le président de l'Europe. Il ne faut pas comprendre ça comme une connerie de plus, mais comme un objectif à atteindre. Nous avons besoin de nous affranchir d'urgence de l'emprise informatique américaine, qui est probablement le levier le plus puissant qu'il possède sur nous.
Nous approchons de la fin de l'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Les infos utiles concernant ces annonces de fin donc sont sur la page consacrée à l'émission du jour hein, sur libravou.org/253 ou sur le site causecommune.fm ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. Ce week-end, à partir de vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 septembre 2025, l'April sera présente avec un stand à la fête de l'UMA dans le sud de l'Essonne, avec notamment, vous aurez le plaisir d'y rencontrer notre présidente Magali Garnero, dite Bouquinette. La fête des possibles, ce sont des centaines d'événements organisés chaque année partout à travers la France et la Belgique pour rendre visibles toutes les initiatives citoyennes qui construisent une société plus durable, humaine et solidaire. Plus de 500 événements sont déjà enregistrés. Il s'agit d'une occasion en or pour sensibiliser de nouveaux publics, notamment au logiciel libre. Ainsi, l'April, partenaire de la fête des possibles, invite les organisations locales de promotion du logiciel libre et de la culture libre à proposer un ou voire plusieurs rendez-vous dans le cadre de cette initiative. Il y a déjà une trentaine d'événements inscrits donc sur le site de la fête des possibles. Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 dans les locaux à Paris au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement. Une soirée radio ouverte avec apéro participatif, occasion de découvrir le studio, de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée radio ouverte aura lieu vendredi 3 octobre 2025 et s'inscrira dans le cadre de la fête des possibles. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels libres ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Laurette Costi, Laurent Costi, Isabelle Carrère, Julien Négros, Luc, aux manettes de la régie aujourd'hui, Bouquinette. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, directeur d'antenne de la radio. Merci également aux bénévoles qui découpent les podcasts complets des émissions en podcasts individuels par sujet, Quentin Gibaud, Théocrite et Tunui. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org/253 toutes les références utiles de l'émission de ce jour, ainsi que sur le site cause de la radio, causecommune.fm ou dans les notes de l'épisode si vous nous écoutez en podcast. Vous pouvez nous laisser un message sur ces sites ou également sur le répondeur de la radio pour réagir à un des sujets de l'émission, partager un témoignage, idée, suggestion, encouragement ou nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission en direct aura lieu mardi 16 septembre à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'association Interop, qui promeut et développe l'utilisation du logiciel libre pour la recherche en santé. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 16 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien.
Cause commune. Retour sur 93.1 à 21h et retrouvez nos programmes sur cause-commune.fm.
L'innocence ne compte pas. Pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi. C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. De l'état d'urgence, pardonnez-moi.
Causecommune.fm.
Ah, Gibson, what about some music?
Balade sonore sur la radio Cause Commune 93.1 FM.